Bon, j'espère que vous allez bien. Apparemment, vous allez bien, surtout Cécile. On va mettre le feu. Pauvre. Déjà, ma première question, c'est... c'est pas une question, c'est une réflexion. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Parce que dans le mail là, que Jean-Pierre a envoyé, était question de Tom Hardy, l'acteur anglais qui a fait des super films... Ouais, il y a quoi aussi, y a Fury Road là. Mad Max, voilà, c'est ça, c'est Mad Max. Ça. Non, donc là c'est bien Thomas Hardy, le Meusien, qui va vous parler d'Éphésiens. Ça rime au moins, ça qui est bien. Donc comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on est sur Éphésiens. Je vais vous remettre. Donc Jean-Pierre, il m'a déjà un peu saccagé mon intro. J'étais parti pour faire plein. Mais... Non, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte d'Éphésiens avant de rentrer dans le dur. Donc Éphésiens, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul pour. Oui, c'est bon. C'est bien. Je coche la première. C'est ça. Il a écrit ça quand il était en captivité à Rome dans les années 60 après Jésus-Christ. Et on peut décrire cette épître, comme une synthèse de la théologie de Paul. D'accord ? En 6 chapitres, on a grosso modo un bon condensé du message de l'Évangile, puis un bon condensé, puis en plus une mise en pratique. Tu peux passer à la diapo, Mika ? On peut découper Éphésiens en deux grandes parties. Une partie qui est plus théorique, donc c'est celle qu'on vient de faire, en fait, qu'on vient de terminer. Donc, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est Jean-Pierre qui a commencé, chapitre 1, il y a eu Étienne, et Benjamin la dernière fois, donc chapitre 1 et 2. Ça parle d'amour de Dieu, de foi, de rédemption, du peuple de Dieu. Je dis théorique, bien évidemment, on peut toujours mettre plein de choses en pratique, c'est pas antinomique. Et la deuxième partie, c'est celle qu'on va voir après, qui est une partie beaucoup plus pratique. On a les chapitres 4, 5 et 6, qui est comment le chrétien est équipé, et finalement, c'est quoi l'Église, le corps de Christ, etc., etc. Donc voilà, ça, on verra ça après. Et bah voilà, chapitre 1 et 2, chapitre 4, 5, 6, et puis bah, moi, je vais faire le 3, celui où on ne sait pas trop où le placer. Celui qui est ni théorique ni pratique, mais qui est au final très théorique et très pratique. Voilà, chapitre 3. C'est un chapitre charnière. Et moi, j'ai voulu me concentrer sur une des parties de ce chapitre 3 qui est une prière. Alors, si je t'ennuie, tu vois. Ok, d'accord, je vais essayer de faire plus dynamique. Je vais danser, je sais pas. Donc, cette prière, c'est la deuxième de l'épître. Il y a Jean-Pierre qui a déjà parlé dans le premier chapitre d'une prière. C'était plutôt une prière de reconnaissance. Et là, on est sur un autre aspect, en fait. Une prière qui est beaucoup plus intense. Cette prière, on va la lire tout à l'heure. Elle commence par « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Il y a quelque chose de plus dense, ouais, comme j'ai dit, de plus intense. Je fléchis les genoux en signe d'humilité, en signe de respect. Et de par cette intensité, cette prière, elle sonne un peu comme une pause dans toute cette lettre aux Éphésiens. Comme une parenthèse. Comme si Paul il disait, ok, je vous ai raconté toute une théorie, enfin la théorie, on va arriver sur l'aspect pratique des choses, mais là, on va juste prendre un petit temps pour se demander, mais pourquoi je vous ai raconté cette théorie, pourquoi je vais vous raconter la pratique, pourquoi on fait ça? Et la question, c'est du coup, c'est quoi ce pourquoi? Pourquoi il y a tant d'intensité pourquoi une prière comme ça en plein milieu? Et bien parce que Paul va nous donner ni plus ni moins, attention les yeux, la définition de, vas-y Malika, du but de la vie. Waouh ! C'est quoi le but de ta vie ? Alors, le but de ta vie, si on prend comme ça, le but en blanc, c'est oh, faut que je réussisse mon examen dans quelques jours. Pardon, c'était trop facile. Le but de ma vie, c'est, je sais pas, avoir une bonne bagnole ou une bonne situation, rembourser ma maison, que mes enfants soient bien élevés. Là, vendredi, c'est marrant, ça tombait bien. Vendredi, j'étais rencontré un copain là, à Nancy, là, et lui, il monte une start-up. Il a 26 ans, quelque chose comme ça. Il monte une start-up et lui, il me racontait, bah moi, là, le but, là, c'est marrant, oh, c'est trop cool, je pourrais prendre ça en exemple. Le but de ma vie, là, c'est qu'à 30 ans, je sois millionnaire. Oh, vache. ça claque, hein, quand même. C'est quoi le but de ta vie? Tu peux passer. Hein. On va lire donc ensemble Éphésiens 3. À partir de verset 14, je vais lire pour vous. Vous pouvez prendre si vous avez vos Bibles, etc. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. De sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Amen. Le but de la vie, c'est ce que j'ai mis là en violet, hein, c'est connaître en Église l'amour du Christ, de sorte, c'est ça qui est important, de sorte d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et donc le but de la vie, il tient en ce pléonasme-là. C'est le monter en haut de l'Église, au jour d'aujourd'hui de la Bible, le rempli de toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est déjà être plein de Dieu, hein, plénitude de Dieu. Et là, Paul, il dit, bah, il faut être rempli, être plein de Dieu. Ça fait beaucoup de plein, quoi. Et du coup, ça paraît très challengeant. On parlait de challenge, de défi à tout à l'heure, là. Ça paraît hyper challengeant, voire quasiment impossible. Mais régulièrement, dans la Bible, on a affaire à ce genre de défi. Moi, un défi que j'aime bien, c'est le « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, quand il s'agit de ma grand-mère, mon prochain, ou de ma femme, ça va. Quand il s'agit de mon collègue ou de, je sais pas, mon voisin, ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, quoi qu'on aime bien nos voisins, donc ça va. Mais je suis pas sûr que Dieu, en fait, il s'attende à ce qu'on atteigne ce but-là. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense plus que Dieu, il a envie qu'on relève le défi, qu'on se mette en action. Je pense que c'est ça le plus important. Tu peux passer, Mika. Tu peux mettre ta souris sur l'écran là et puis... Ah, merci. Comment être plein de la plénitude de Dieu? Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Pour y parvenir, il y a, donc ça c'est Paul qui traite de ça dans sa prière. Pour y parvenir, il y a trois clés. Et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Lui, il formule ça comme trois demandes. Nous, on va voir ça comme trois clés. On va être rempli de la plénitude de Dieu. Mika, tu peux. Ouais, bah, il y en avait encore une, pardon. La première, c'est force et puissance dans votre être intérieur. Alors là, bien évidemment, c'est dans votre être intérieur, la force et la puissance. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accéder à, je sais pas, une grande richesse, d'avoir un super job, d'avoir une super voiture. Non pas que Dieu est contre ça. Dieu, il est bien évidemment pour ça. Mais on doit pas être centré là-dessus. Il faut se centrer davantage sur son équipement spirituel. Verset 16, d'ailleurs, il le dit, hein, c'est ça, c'est au profit de l'homme intérieur. Un équipement pour votre cœur. Et l'équipement spirituel dont parle Paul ici, c'est les fruits de l'esprit. Il le dit dans Galates 5, 22. Il parle des fruits de l'esprit, donc c'est une autre épître qu'il a écrite. Et c'est le fruit de l'esprit, pardon, c'est donc l'amour. Et après, il y a les éléments qui composent l'amour. Alors, il les décrit, il les cite, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le petit dernier, c'est mon préféré, la maîtrise de soi. Pour ceux qui ont des enfants, un de ces quatre, là, vous allez bien comprendre votre douleur avec la maîtrise de soi. Paul, il ne prie pas là pour qu'on soit simplement équipé. Il ne dit pas « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la maîtrise de soi » ou la bienveillance. Il ne dit pas ça. En fait, Paul, il va au-delà de ça. Il prie pour qu'on soit fort et puissant là-dedans. Tu as la bienveillance ? C'est très très bien, c'est génial. Et bien, prie pour avoir encore plus de bienveillance. Prie pour être fort et puissant dans cette bienveillance. Par contre, je ne sais pas, on va reprendre un autre fruit de l'esprit, la patience. Tu n'es pas du tout patient, tu n'as pas cette patience-là. Et bien, c'est pareil, là, tu peux prier pour que Seigneur, simplement, il t'équipe de cette patience. C'est juste faire un pas supplémentaire, c'est ça qui est important. Prochaine diapo. Je pense que tu as meilleur temps de mettre ta souris ici, puis de faire avec les petites... Clique une fois. La deuxième clé, la première clé c'est force et puissance dans notre être intérieur. La deuxième clé c'est que le Christ habite en nous. Parce que demander pour que le Saint-Esprit nous équipe de patience, de bienveillance, de choses comme ça, bah ouais c'est bien, mais encore faut-il lui laisser la place dans notre cœur. Encore faut-il lui laisser la place d'œuvrer. Et donc c'est ce petit verset 17 là, que le Christ habite dans votre cœur. Il faut lui laisser la place d'habiter dans notre cœur. Habiter, ça signifie avoir sa demeure, c'est être installé. On pourrait dire prendre possession d'un lieu. Alors en ce moment, nous à la maison, on a des copines qui habitent avec nous. Tu peux mettre, Mika ? Voilà, c'est ça. C'est des martres. On a des martres dans la toiture. C'est génial, c'est super. Ça fait un bronx, c'est pas possible. Ça court partout. Apparemment, on a une famille. Moi, j'ai l'impression qu'on a une colo dans la toiture. Et j'ai l'impression que c'est des poneys, que c'est pas des mardes. Ça galope là-dedans, c'est incroyable, quoi. C'est mignon, hein, pourtant, mais il va falloir qu'on les extermine, je crois. Non, c'est trop mignon, on n'y arrivera pas à faire ça. Mais bon, bref, elles habitent chez nous et ça a un impact sur nous. Ça a un impact sur notre comportement. On est agacé de ça, en fait. Et encore, on a du bol parce qu'elles ne sont pas la partie où on dort, elles sont au-dessus du salon, donc bon, ça va encore. Mais si elles seraient dans le salon, au-dessus des chambres, ça serait l'horreur, quoi. Toute la nuit, elles galoperaient là-dedans, ça serait la catastrophe. Ça agit sur notre comportement. Elles habitent chez nous et ça agit sur notre comportement. Moi, ce que je veux peut-être vous faire prendre conscience, là, c'est que il faut faire attention aux choses qui habitent dans nos cœurs. Parce que ça va porter du fruit. Forcément, ça portera du fruit. Si c'est de mauvaises choses qui habitent dans votre cœur, bah, ça portera du fruit, et un fruit qui sera mauvais. Si par contre, vous laissez le Saint-Esprit prendre plus de place dans votre cœur, peut-être il a déjà une place, mais il faudrait peut-être juste pousser les murs, pousser les meubles, pousser les murs, agrandir, lui faire prendre plus de place, ça portera plus de fruits. Faites attention à ce qui habite dans votre cœur. Prochaine diapo. La troisième clé, c'est, vas-y encore une fois, l'amour. Que vous soyez, donc ça c'est la deuxième partie, du verset 17, que vous soyez enracinés dans l'amour. Ah, c'est très intéressant, là, Paul il prend deux verbes, il dit que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Les images que Paul utilise, elles sont hyper intéressantes. C'est donc les fondations, que vous soyez fondés dans l'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bâtiment où il n'y a pas de fondation. En général, normalement vous n'avez jamais vu ça, parce que le bâtiment il s'écroule, hein, c'est pas possible, un bâtiment sans fondation. Et pareil, il utilise le verbe enraciner, là aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre sans racines ? Non, parce que les racines de l'arbre, ça sert à l'arbre à se nourrir, ça sert à rester en place. C'est ça, c'est sa vie, c'est exactement ça. C'est indispensable, c'est nécessaire, c'est comme l'amour. C'est ce sans quoi rien ne tient. Mais du coup, la question c'est bien, mais c'est quoi finalement l'amour ? C'est quoi finalement l'amour ? Dans la Bible, globalement, alors si on pose cette question à n'importe qui dans la rue, là, on va avoir droit à beaucoup de sentimentalisme, beaucoup d'émotionnel et tout. Dans la Bible, c'est très rarement question de ça. Il y a bien évidemment des émotions et tout, ça c'est pas ce que je remets en cause, mais en tout cas, l'amour dans la Bible, c'est pas une sensation, c'est pas une émotion. La Bible, c'est une action. Tu peux mettre le prochain. Jésus, dans Marc 12, il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Dans « Aime ton prochain comme toi-même », il y a ton prochain. Ça, c'est important, ça. Parce que réaliser une action pour l'autre, quand il n'y a pas l'autre, ça paraît un petit peu compliqué, quoi. Ça me fait un peu penser à jouer à 1, 2, 3 soleil tout seul, quoi. Vous savez ? 1, 2, 3 soleil. Ah bah, t'as pas bougé. Bah oui. Il n'y a pas l'autre. Ça fait penser à jouer au frisbee tout seul. Vas-y, on verra la petite vidéo, qu'on soit bien au clair avec ça. Voilà, un petit coup de play. Voilà. Notre chère Milouze. Je m'étais dit que si un jour je faisais une prédication, ma première, je mettrais forcément un truc des Simpsons dedans. Voilà, c'est l'amour de l'autre sans l'autre. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Et dans la Bible, l'amour, elle est très régulièrement associée à l'autre. Ça commence même très très tôt dans la Bible. Lévitique 19, verset 18. Ouais, merci. Lévitique 19, verset 18. Donc là, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Déjà, dès le début, hein, ça pose un peu le cadre. Enfin, dès le début, c'est Lévitique. Jésus, dans Marc 12, je l'ai dit à l'instant, « Aime ton prochain comme toi-même. » Et dans Jean 13, 35, on a aussi celui-là je l'aime beaucoup. « C'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour pour les autres, ok, c'est bien. Ça, je pense que ça peut aussi commencer. C'est pas le point de départ, mais ça, en tout cas, ça place bien évidemment dans l'Église. « C'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Ça commence dans l'Église. Et le plus bel exemple, c'est l'amour de Christ pour l'humanité. Et l'amour de Christ pour l'humanité, c'est quoi ? C'est la croix. Et la croix, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas vraiment une émotion. C'est quelque chose de bien réel. C'est Christ sur la croix, cloué sur du bois, cloué au niveau des poignets, pour pas qu'il puisse tomber. Pour qu'il puisse mourir aidez-moi, d'asphyxie, pardon. Et c'est de la torture, quoi. C'est de la torture. Pour moi, ça, c'est une action. On n'est pas dans de l'émotionnel, là. Et c'est une action qui est concrète et une action qui est compliquée. Et je dirais que pour nous, c'est pareil, au final. Pour nous, c'est pas forcément simple d'aimer les autres. Alors c'est pareil à notre petit niveau, on est d'accord. C'est pas forcément simple d'aimer les autres. C'est parfois compliqué. C'est parfois un challenge. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Concept de challenge. Mais comme j'ai dit au-dessus, le Saint-Esprit nous équipe. On n'est pas tout seul pour dans ce combat-là d'aimer les autres. Saint-Esprit nous équipe, il nous donne tout ce qu'il faut pour avancer. Avant de passer à la suite, je veux juste vous faire une petite parenthèse là. Imaginez vous gagnez au loto. Vous gagnez 500 millions. Donc ça, c'est pas juste 200 000 balles. Hein. Vous gagnez 500 millions au loto. C'est OK là ? Vous avez ça en tête là ? Vous gagnez 500 millions au loto. Et qu'est-ce que vous faites avec vos 500 millions au loto ? Tous les jours, vous allez à la banque. et vous tirez 10 balles. En fait, Quentin va moucher ton fils. Pardon. Vous avez gagné 500 millions au loto et vous tirez tous les jours que 10 balles. En fait, nous, c'est pareil. C'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est pareil avec Dieu. On a un trésor incroyable, inestimable. Inestimable. Et on prend rien. On prend, on prend un petit peu de patience par-ci, un petit peu d'amour par-là, on vient piocher des trucs là, mais... Et enfin, je vous partage ça, mais c'est moi le premier, hein, je me rends bien compte que j'arrive pas à saisir tout, et je pense que c'est une prière à faire. Il faut qu'on s'empare de toutes les richesses que le Seigneur il nous a promis. Et de tout ça, on les a, c'est acquis, en fait, c'est pas acquis, c'est on les a, c'est à notre disposition. Et il faut juste qu'on s'en empare. Voilà, tu peux passer à diapo. Donc là, je vous ai donné des clés, ok, c'est bien. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa tes trucs là, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on fait ? Concrètement, c'est quoi ? Comment on peut être rempli de la plénitude de Dieu ? Comment on peut accéder à tout ça ? Ces clés-là, comment concrètement on peut les mettre en œuvre ? Et ben là, je vais vous proposer une méthode. Je peux mettre la prochaine. Je vais vous relire le verset 20 de la prière. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je vais juste relire. Faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Moi, je vous encourage, et Paul, ce qu'il nous dit là, il nous encourage à vivre une proximité forte avec Christ. Et alors, je vous encourage à ça, mais finalement, on partageait ça avec Jean-Pierre vendredi. Moi, je trouve que notre église, elle est géniale. on se met un peu de crème. Hein. Super, notre église, elle est trop cool. Mais je trouve qu'on avance bien là-dedans. Et quand on voit nos connects, nos petits groupes, là, je trouve qu'il y a vraiment une volonté d'être plus proche de Christ. On lit la Bible, on prie, Et ça, je trouve ça génial. Donc franchement, je trouve ça super. Après, je veux juste qu'on ne s'arrête pas là et qu'on soit toujours voilà, un cran supplémentaire. Moi, j'ai aimé la dernière fois Cécile là, qui me disait « Oh, mais c'est trop cool, là, je vais partager... » C'était sur Romain 12, non ? Si ? Ouais, c'est ça ? Romain 12, là, je prépare la prédique et tout, c'est... Enfin, prédique. Et je trouve ça génial. On se met en action, on se met vraiment, on se met dans le game, quoi. Et donc voilà, je suis content de ça. Alors dans le verset que j'ai lu, Dieu, par le Saint-Esprit, je paraphrase, hein, c'est à celui qui peut, donc Dieu, par la puissance qui est en œuvre à nous, le Saint-Esprit. Donc Dieu, par le Saint-Esprit. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce qu'on pense. Alors demander, il y a demander et penser. Demander, c'est être conscient de ce qu'on veut. Ok, Seigneur, je veux plus de patience. Enfin, je suis conscient de ça, j'en ai besoin, je sais que là-dessus, ça va pas bien, je le demande. Ok. Penser, par contre, c'est autre chose. Penser, c'est formuler des suppositions, c'est faire des suggestions. C'est discuter aussi avec Dieu. C'est avoir des projets. C'est rêver. Et Paul, il déclare ici que le Saint-Esprit, en nous, il peut faire infiniment plus que ça. Et infiniment plus, enfin, je ne sais pas, se rendre compte un peu des mots, là. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, des fois, on lit comme ça sans s'en rendre compte, mais il peut faire infiniment plus que ce qu'on demande et ce qu'on pense. Vous connaissez Chuck Norris ? Ok, donc je peux la faire. À part Chuck Norris, je me suis dit, ça se trouve, ils ne connaissent pas. À part Chuck Norris, qui a déjà compté jusqu'à l'infini, deux fois, nous, pauvres mortels, on ne sait pas ce que c'est l'infini. On a bien une vague idée que c'est un truc incroyable et tout, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est tellement grand. Chuck, aide-moi. Peut-être qu'on touche ici à un point qui est inconnu à l'homme. C'est même pas peut-être, c'est sûr. On touche à un point qu'on ne connaît pas. Dieu nous promet quelque chose de, je mets des guillemets, surnaturel. Dans le sens que c'est au-delà de la nature, c'est au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on est capable d'imaginer, de discerner. Quelque chose que l'homme ne peut pas saisir. Et ça nous encourage à être ambitieux dans nos demandes, à être ambitieux dans nos prières. Attendons-nous à beaucoup plus que ce que nous prions. Il faut s'attendre à plus que ce qu'on en prie. Mais du coup, il faut prier. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu en prière. Il faut passer du temps avec Dieu en bavardage. Moi, ce que je fais régulièrement, je vais souvent en forêt, j'aime bien ça. Je marche ou je cours et j'ai toujours... je raconte ma vie à Dieu, quoi. C'est, je raconte vraiment ma vie. Mais des fois, mais... Des fois, je me dis, mais c'est nimp. Je raconte des trucs. Voilà, il faudrait qu'on change de bagnole. Purée, j'aimerais bien changer de bagnole, machin. Seigneur, t'en penses quoi? Je me dis, purée, pauvre, des fois, avec moi. Donc voilà, mais il faut passer du temps avec Dieu. Que ça soit un peu votre quotidien avec lui, quoi. Passer du temps avec lui. La deuxième chose, c'est la lecture de la Bible. Cherchons à connaître Dieu. Vous connaîtrez pas Dieu autrement que par ça, en fait. C'est la lecture de la Bible qui va vous faire apprendre des choses sur Dieu. Lisons la parole. Et plus que ça, méditons la parole. Je vous raconte ça parce que je suis pas contre, hein, mais il y a toujours ces trucs-là de lecture de la Bible en un an. Ou la lecture de la Bible en un an, là, ça te met une espèce de cadence de lecture, là, où tu clac, 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 tu bouffes des chapitres. Et je trouve ça bien, hein, c'est pas. Mais je me dis, des fois, il faut peut-être juste s'arrêter pour méditer la parole. J'entendais un reportage un jour là d'une dame qui a gagné un concours de lecture. Vous savez ce que c'est le record de concours de lecture? C'est 400 pages en 1h30. 400 pages en 1h30, ça veut dire quoi? Je fais mon petit calcul, ça veut dire que c'est ça là, la Bible. En 6 heures. J'ai 1600 pages dans ma Bible, hein, un petit produit en croix. Bon, peut-être un peu plus parce que effectivement c'est écrit petit, on est d'accord. Allez, on large 10 heures. Alors, on va mettre ça. C'est-à-dire qu'elle est capable de lire la Bible en 10 heures. Non, mais moi, il me faut un an pour lire la Bible, et encore un an, c'est vraiment. J'y vais comme une machine. Et incroyable. Et du coup, la journaliste, c'était marrant parce que la journaliste, elle l'interroge, elle lui dit. C'est super, dans votre bibliothèque, vous devrez avoir une bibliothèque incroyable, et puis vous pouvez bouffer des romans et tout ça. Elle dit non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Quand j'ai des romans ou des livres au quotidien, ma lecture quotidienne, je prends mon temps. Je savoure, je réfléchis à ce que je lis. Et puis, elle avait rajouté ça, je trouvais ça pas. Je respecte l'auteur. L'auteur, il a mis du temps, il veut dire quelque chose, je veux pas avaler ça. Et donc, je veux prendre mon temps et respecter ça. Je pense que ça peut être aussi une bonne façon de lire la Bible. Je dis pas, je répète, lire la Bible en un an, c'est très bien. Si vous arrivez à le faire, allez-y, faites-le. Je pense aussi que c'est important de prendre son temps, de lire la Bible, lire quelques versets, s'arrêter, méditer, prier sur ce qu'on a lu. Et dans les études là, que je fais, là, ITF, là, de théologie, là, pour ceux qui ne savent pas. Il y a un pasteur qui disait ça peut être pas mal de lire la Bible comme un touriste. Vous savez, tu te là, tu flânes, tu regardes. Oh tiens, ce verset-là, c'est super sympa, purée, mais ça me parle. Je vais arrêter de lire. Je m'étais dit, je vais lire un chapitre, je vais m'arrêter sur 3-4 versets et je vais prier. Je pense que ça peut être bien. Tu peux passer, Mika? La deuxième chose, deuxième méthode, Donc on a dit, la première méthode, c'est vivre une proximité forte à Christ. Si vous devez retenir un seul truc de tout ce que j'ai raconté là cet après-midi, c'est ça. Le deuxième point, c'est l'Église. La communauté des frères et sœurs en Christ. La communauté de chrétiens. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que Ben, il en a déjà parlé dimanche dernier, il y a deux semaines. Du coup, moi, je vous encourage à aller écouter ce qu'il a raconté. Et surtout, on en parlera aussi beaucoup dans les prochaines fois. Donc, c'est pareil. Je ne vais, pas m'attarder là-dessus. J'ai plutôt m'attarder sur un point qui est intéressant. Verset 21, donc c'est le dernier verset de sa prière. Il finit sa prière comme ça. À lui la gloire, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Amen. Tu peux mettre la prochaine. J'insiste sur cette notion-là de « à lui la gloire ». Parce qu'en fait, c'est tellement facile d'avoir l'apparence de l'amour, c'est tellement facile d'avoir l'apparence de la bienveillance, et que finalement, l'enjeu dans tout ça, ça soit juste l'amour de nous-mêmes. Vous voyez le truc là ? Faire semblant, mais avoir cette apparence là de patience, de paix et tout ça. Et en fait, c'est juste pour nous qu'on le fait. C'est juste pour notre petite gloriole personnelle qu'on le fait. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu dans l'Église. On demande toutes ces choses-là, la paix, la patience, le fruit de l'esprit, l'amour. On demande toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Et non pas pour notre profit ou notre petite gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Soyons centrés sur Christ. C'est ça qui est important. Restons centrés sur Christ. Paul, ici, il parle aussi. Du coup, il parle beaucoup de l'Église. Il y a un moment dans sa prière où il dit. J'ai pas noté, mais c'est. Voilà, c'est ça. D'être capable de comprendre avec tous les saints de connaître l'amour. Capable de comprendre l'amour de Dieu avec tous les saints. Ça veut dire dans l'Église, enfin, entre chrétiens. Il parle beaucoup de l'Église. L'Église comme corps du Christ, c'est pour faire une belle transition avec ces chapitres. Du coup, c'est pas des chapitres à l'époque, mais pour faire une belle transition avec ce qu'il va raconter après. Après, il parle de construire le corps du Christ dans l'unité et dans l'amour, et donc il parle beaucoup de ça. On est un, on est une communauté, et c'est important de le voir comme ça, de se centrer sur Christ en communauté, entre chrétiens. Si l'équipe de louange peut revenir là, je vais conclure. D'un point de vue un peu concret, moi je donc là on a parlé de concret, mais si on veut encore pousser un petit peu plus la chose, moi je vous encourage à vivre ça en connect. Alors pour ceux qui ne savent pas, les connect dans notre église là, c'est des petits groupes qui sont composés de entre 3 et 6 personnes. Il y en a 5, non, il y a 4 connect. Et l'objectif c'est l'église, c'est pas que le dimanche. Donc c'est de vivre aussi l'église la semaine. De partager ses défis, de partager ses galères, mais aussi de partager ses joies dans un petit groupe de personnes. On se connaît bien, donc on peut partager plus facilement. Moi, je vous encourage à ça. Ça permet de, comme j'ai dit plus haut, ça permet de travailler notre proximité à Christ dans la lecture de la parole, dans la prière. Le Saint-Esprit, pour conclure, je vais finir par ça, le Saint-Esprit habite en vous. Peut-être vous lui avez laissé une toute petite place et il veut juste prendre beaucoup plus de place. Il veut vous équiper, que vous soyez fort et puissant de bonté, d'amour, de joie, de bienveillance, de maîtrise de vous-même, maîtrise de soi. Soyez enraciné dans l'amour. Que tout ce que vous entrepreniez soit empreint de l'amour. Faites ça pour Dieu, faites pas ça pour votre propre gloire. Et alors vous verrez que vous-même et en Église, on sera rempli de la plénitude de Dieu. Et on vivra alors une croissance spirituelle forte. On sera des lumières pour nos amis, nos familles, nos collègues, et on sera une lumière pour Nancy. Alors je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche spirituelle, dans votre foi. Je ne sais pas les choix que vous avez pu faire, si vous avez décidé d'entrer dans la famille de Dieu ou pas. Mais finalement, la méthode, elle fonctionne aussi pour vous. La prière et la lecture de la Bible. Vous pouvez prier. C'est pas des martres. Je vous encourage à, si vous avez des questions, n'importe quoi, je vous encourage à venir vers, aller vers Jean-Pierre ou aller vers moi pour discuter. Si vous n'avez pas compris certains points ou si vous voulez qu'on approfondisse des points, restez pas seul avec vos questions. Voilà, je vous encourage à potasser ça et puis à prier. Soyez bénis.